20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous, c'est avec Keith Scallion que nous passons un petit moment ce soir. Le chef américain viendra nous présenter ses tout premiers enregistrements avec son Orchestre National d'Île-de-France, enregistrements dédiés à Wagner et à Beethoven, qui sortent en format digital sous le label Nomad Music. Et puis avec Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix, nous nous évaderons à Venise, au Palazzetto Bruzane, certes fermé au public, mais toujours aussi actif. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical et on commence outre-Manche. Plus de 100 stars de la scène musicale britannique, parmi lesquelles Simon Rattle, Nicola Benedetti, Chez Cooken & Mason ou encore Sting, ont signé une lettre ouverte publiée dans le Times, une tribune dénonçant la manière dont le gouvernement a négocié le Brexit, qui, selon eux, fera de l'Europe une zone interdite aux musiciens. En même temps, une étude publiée par le Royal Philharmonic Orchestra confirme l'impact de la musique sur notre humeur et notre santé. Effectuée auprès de 8000 personnes et durant différentes périodes, avant et pendant la pandémie, cette étude mettant en évidence les différents comportements d'écoute de la musique symphonique induits par les changements de contexte. On observe ainsi que 85% des sondés ont élargi leurs horizons culturels pendant le confinement et ont constaté les effets positifs de la musique classique. Rémi Monti vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. La flûte enchantée de Mozart dans la si belle mise en scène de Robert Carsen qui devait être représentée en janvier et en février à l'Opéra Bastille fera l'objet d'une unique représentation demain soir à 19h30 à huis clos, retransmise en direct sur le site L'Opéra Chez Soi, la nouvelle plateforme numérique de l'Opéra de Paris. Ce spectacle sera ensuite disponible pendant 30 jours. Sur scène, un cast de rêve avec notamment Julie Fuchs, Cyril Dubois et Sabine Devielle. L'orchestre de l'Opéra de Paris sera placé sous la direction de Cornelius Meister. Sabine Devielle faisait partie il y a 2 ans de la distribution d'une remarquable production de l'opéra comique Hamlet d'Ambroise Thomas dans la mise en scène de Cyril Test et sous la direction de Louis Langrée et avec Stéphane Degout dans le rôle titre. Cette production a fait l'objet d'un DVD récompensé hier par les Classical Musical Awards dans la catégorie vidéo. Parmi les autres lauréats, on remarquera quelques Français, François-Xavier Roth pour l'enregistrement du timbre d'argent de Saint-Saëns, publié par le Palazzetto Bruzane dans la catégorie opéra, ou encore le pianiste Lucas Debargue pour le documentaire que lui a consacré le réalisateur Martin Mirabel.
Laure Maison sur Radio Classique.
Nomad Music publie cette semaine en format digital 2 enregistrements de l'Orchestre National d'Île-de-France, ses 2 premiers enregistrements avec son nouveau directeur musical Keith Scallion. Le chef américain aurait dû en ce mois de janvier entamer une tournée avec ses musiciens, une tournée bien entendu annulée. Il dirigera cependant un concert à huis clos qui sera diffusé le 6 février en streaming autour d'un programme dédié à Dvorak et Tchaïkovski. À cette occasion, Keith Scallion est passé nous voir à la radio, a échangé avec nous et témoigné ainsi de ses vifs progrès en français. Alors comment aborde-t-il cette nouvelle année, cette période encore bien fragile de la vie musicale? On l'écoute.
Il y a plein de gens qui disent c'était une bonne chose de découvrir de nouvelles choses, mais je suis pas d'accord. C'était vraiment un temps terrible, mais heureusement, à chez nous, avec l'Orchestre National d'Île-de-France, nous avons une équipe plus flexible que j'ai et vous. Et c'est pour ça que nous avons accompli beaucoup de choses pendant cette période difficile.
C'est vrai que vous entamez votre 2e saison de directeur musical de l'Orchestre National d'Île-de-France. La première s'est stoppée au mois de mars. La deuxième commence de façon assez fragile. Comment construire une collaboration, un projet quand tout est bousculé?
C'est dur pour l'orchestre, pour les orchestres et pour moi-même, pour les artistes, parce qu'il faut que les orchestres restent flexibles, mais nous aussi. J'ai eu un opéra de Wagner pour mars, annulé. J'ai étudié cette partition depuis 2 années, annulé. Mais il faut faire une autre chose. Mais comme j'ai dit, l'Orchestre National d'Île-de-France est très, très, très flexible. Entre mars et juillet de 2020, c'était comme 42 concerts annulés. Mais nous avons créé à l'instant la série Bach to Live pour faire du streaming.
Et l'orchestre a pu continuer à jouer. C'est important pour un orchestre de jouer, c'est nécessaire.
Pour la santé, artistique et musicale, c'est vrai.
Wagner était au programme de votre premier concert officiel en tant que directeur musical de l'Orchestre National d'Île-de-France, Keith Scallion. C'était en octobre 2019. Un magnifique concert incluant des extraits de Parsifal, notamment avec deux formidables chanteurs, Michel de Jong et Simon O'Neill. Un programme qui vient de faire l'objet d'une publication discographique. Quel souvenir gardez-vous, Keith Scallion, de ce concert, premier concert officiel avec votre orchestre, avec un programme si fort, si intense? En tout cas, les spectateurs, et j'en faisais partie, en gardent un souvenir très fort.
C'était comme un rêve, en fait. Et aujourd'hui, pendant cette pandémie, c'est plus comme un rêve. Le temps qu'on pouvoir jouer avec 120 gens sur la scène.
Et... Ça paraît surréaliste aujourd'hui.
Oui, bah, c'est pas possible, en fait. Ouais. J'ai une histoire d'amour avec l'ONDIF et ce projet, c'était la bonne manière de commencer avec ma nouvelle famille.
Oui, parce que Wagner est un compositeur qui a joué un rôle très important dans votre vie, Keith Scallion. C'était évident pour vous de commencer cette aventure avec ce compositeur qui est l'un de ceux qui ont déclenché votre vocation.
J'ai voulu faire quelque chose avec une nouvelle direction. Mahler, Bruckner, Strauss, mais Wagner, c'était quelque chose pour moi très, très, très spécial. Et j'ai dit à l'équipe, pourquoi non? Il faut faire le risque. Et c'était bien passé.
Mais quelles exigences et quelles difficultés, quelle stimulation en même temps suscite la musique de Wagner pour des musiciens, pour un chef d'orchestre? Quel travail sur les couleurs, sur les sonorités peut-on faire avec cette musique ou doit-on faire?
C'est un grand challenge pour l'orchestre. C'est pas uniquement la durée. C'est une chose, bien sûr. Mais aussi de trouver les couleurs. Pour moi, c'est très pareil, on peut dire, avec la musique de Debussy, mais avec une durée énorme.
Et en même temps, il y a aussi cet équilibre sonore à trouver dans la musique de Wagner, notamment lorsque vous êtes en compagnie de chanteurs, comme c'était le cas pour ses concerts donnés entre autres à la Philharmonie de Paris, des chanteurs sur scène. Et on sait que la musique de Wagner exige à la fois une puissance vocale, une puissance orchestrale, et que trouver le bon équilibre, la bonne balance est difficile, surtout avec des musiciens sur scène et un orchestre qui n'est pas dans la fosse, mais au même niveau.
Pour moi, c'est incroyable que ces choses, ça marche bien avec la musique de Wagner. Je sais pas pourquoi, mais vraiment, il y a pas beaucoup de mesures qui sont impossibles de jouer. Ça semble comme ça, quelquefois, mais ça marche très très bien pour la langue de l'orchestre.
Thank you.
figure entre autres au programme de cet album Wagner, votre premier enregistrement Keith Scallion avec Londif, figure entre autres le prélude et la mort d'Isolde, des pages parmi les plus bouleversantes qui soient du répertoire. Quelle sensation éprouve-t-on lorsque l'on dirige de tels frissons?
Pour moi, c'est comme une méditation. Et il faut regarder les respirations de moi-même, mais aussi de l'orchestre. Si j'ai beaucoup d'émotions pendant le concert, avec Tristan, par exemple, je sais que c'était pas bien passé. Il faut, en fait, méditer, on peut dire.
Mais on peut méditer et diriger en même temps parce que...
C'est difficile. je suis pas déjà arrivé, mais j'ai essayé.
Mais en tout cas, le résultat nous invite, nous, à la méditation.
C'est
aussi.
C'est très, très, très gentil.
Tant on est touché par ces frissons, des frissons wagnériens, et puis la musique de Beethoven, donc un deuxième enregistrement avec Londif. La musique de Beethoven, c'est une toute autre énergie que celle de Wagner, un tout autre équilibre sonore à trouver qu'à Scallion.
Il faut interpréter la musique de Beethoven avec une exactitude. Beethoven, pour moi, c'est au centre du répertoire. Et il y a des choses comme de Mozart, et pour ça, c'est très important pour l'orchestre de jouer, d'être exact. Mais en même temps, il faut dire que cette musique est en même temps très, très, très romantique. Et il faut trouver cette balance tout le temps. Et ça, pour moi, c'est le grand challenge.
Alors, deux premiers enregistrements avec Londif, Keith Scallion, et puis des rendez-vous en streaming, des rendez-vous à huis clos avec l'Orchestre National d'Île-de-France, le 6 février notamment, un programme Dvorak Tchaïkovski, c'est cela ?
Oui, c'est vrai. On va faire la 7e symphonie de Dvorak, une symphonie très, très, très connue. Mais on va jouer aussi des légendes de Dvorak. Pour moi, c'est la première fois.
Ah, c'est des pages superbes. On adore ces légendes de Dvorak à Radio Classique. On les diffuse souvent.
Et pourquoi c'est presque jamais joué? Je
sais
pas.
Il faut les enregistrer, hein, parce qu'on a besoin de renouveler nos...
Mais je pense que j'ai un autre collègue qui habite ici en France, à Paris, un autre directeur musical d'un autre orchestre parisien. Et je pense que...
Qu'il veut les faire aussi.
C'est fait.
Ah bon. Mais vous trouverez d'autres répertoires pour nous enchanter. Alors, vous êtes à la tête de l'Orchestre National d'Île-de-France, Keith Scallion. Vous êtes également rattaché à un autre orchestre en Allemagne. Vous êtes américain. Avez-vous des nouvelles de vos collègues américains et puis, bien entendu, de l'Allemagne?
Même si c'était très difficile pour nous, chez nous, ici en France, c'est beaucoup mieux ici qu'aux États-Unis, par exemple. Et pour les chefs, pour les artistes qui n'ont pas un poste, en fait, c'est une catastrophe. Les choses, ça va s'améliorer, je pense. Mais je suis très reconnaissant d'être en France dans ce moment.
Et en Allemagne, à Heilbronn, comment ça se passe?
C'est la même chose. La culture est très, très, très importante en Allemagne, même comme en France.
Donc, ils peuvent jouer comme nous.
Oui,
ici,
oui, oui. C'est la même chose. Et il y a des différences, mais ils sont très petites, je pense.
Alors, Londif joue beaucoup. Il fait partie de ces orchestres très actifs, malgré la fermeture des salles. Il joue pour le streaming et on s'aperçoit que le streaming connaît un très vif succès. Est-ce que le streaming peut, selon vous, Keith Scallion, changer notre mode de, entre guillemets, consommation du concert? Est-ce que le concert, après, peut tirer profit de cette expérience du streaming?
Bien sûr. Et ça, c'est une balance très fragile, je pense, parce que cette période, c'était pas uniquement avec les arts, mais aussi de travail. Il y a beaucoup de gens qui peuvent rester à la maison. Et ça, je pense que ça, c'est un peu dangereux, parce que même si on peut apporter d'un nouvel public avec du streaming, c'est pas la même chose comme un concert de live.
Oui, mais en même temps, on peut toucher un autre public, on peut développer des projets originaux, des conceptions de programmes différentes. C'est aussi l'occasion de créer le streaming, d'inventer peut-être d'inventer de nouveaux formats de concerts qui pourront peut-être après être appliqués sur scène.
Je pense que cette flexibilité est très importante pour la future. Nous avons fait la même format depuis des 200 années, ouverture, concerto, symphonie, c'est un beau programme. Mais pourquoi peut-être on peut faire de concerts plus courts, plus longs, avec un mélange de nouvelles musiques et de musiques classiques. Mais je pense que c'est important que les salles de concert restent un endroit qui est, on peut dire, ouvert pour tout.
Évidemment, on a tous hâte que les salles de concert puissent rouvrir le plus vite possible. En attendant, le digital nous sauve tout de même. Et c'est sous format digital que sortent vos deux premiers enregistrements et non pas sous format physique. C'est aussi une façon de montrer que l'Orchestre National d'Île-de-France, Caïs Scalion, s'inscrit dans cette modernité, dans cette digitalisation de la vie musicale maintenant.
Mais oui, et chez nous, avec Ondif, ils ont... avec ces choses très 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 bien, avec de la musique, du streaming, du digital et tout comme ça.
L'Orchestre National d'Île-de-France que l'on a hâte de retrouver en concert, à défaut de pouvoir l'applaudir pour de vrai, ce sera en ligne le 6 février à 19h sur le site Ondif Live et vous dirigerez Caïs Scalion des pages de Dvorak et de Tchaïkovski avec en soliste le violoncelliste Johannes Moser. Et puis il y a ces deux premiers enregistrements qui viennent de paraître, des pages de Wagner et la symphonie héroïque de Beethoven. Merci beaucoup d'être passé nous voir.
Merci Laure.
Quelques notes du final de la 3e symphonie, l'héroïque de Beethoven par Caïs Scalion et l'Orchestre National d'Île-de-France. Un enregistrement sorti en format digital sous le label Nomad Music. Caïs Scalion en concert en streaming sur le site Ondif Live le 6 février à 19h. Sachant que vous pouvez également profiter sur ce site de l'ensemble des concerts donnés à huis clos par l'Orchestre National d'Île-de-France ces derniers mois.
Le coup de cœur de la Croix avec Emmanuel Giuliani.
Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Laure.
Alors cette semaine, vous nous emmenez à Venise dans un palazzetto vénitien que l'on connaît bien d'ailleurs.
Exactement, parce que très régulièrement, la presse musicale, et vous particulièrement, chère Laure, sur l'antenne de Radio Classique, vous évoquez les activités de ce palazzetto Bruzzane de Venise, dédié, on le sait, à la redécouverte du patrimoine musical français de l'époque romantique et du début du XXe siècle. Alors c'est une activité qui se déploie désormais bien au-delà de la seule Sérénissime, même si elle trouve son ancrage dans ce merveilleux palazzetto, ce petit palais, havre de paix et d'harmonie, non loin de la somptueuse église dei Frari et de la non moins somptueuse Scuola San Rocco, avec les spectaculaires tableaux du Tintoret, ces deux hauts lieux de l'art vénitien. Bien entendu, actuellement, les concerts du palazzetto sont annulés, comme ceux qu'il programme en Europe, et il faudra encore patienter quelque temps pour les retrouver en live. Mais le centre musical est aussi un foyer de recherche, de publications, de conférences, de colloques, qui nourrissent notamment une web radio et un remarquable ensemble de podcasts qui nous aident vraiment précieusement durant cette période sans culture vivante. Il est donc hautement recommandé de se connecter sur le site du Palazzetto Bruzzane, qui met totalement gracieusement à disposition la captation de nombreux concerts soigneusement archivés, mais aussi un choix très stimulant de documents très divers, réunis sur une copieuse médiabase.
Mais ces documents, Emmanuel, ne sont pas réservés aux spécialistes.
Non, absolument pas. Aussi bien les concerts que les documents plus scientifiques peuvent être accessibles vraiment à nous tous. Et c'est justement l'équipe du Palazzetto qui a ce génie propre de rendre très accessible et très romanesque, si je puis dire, à tous les curieux, des compositeurs et des thématiques qui, a priori, pourraient sembler pointues et qui, grâce à eux, ne le sont plus du tout. Ça peut être aussi bien les maîtres inconnus de l'opérette, la compositrice Mel Bonis, l'exotisme dans l'art lyrique ou encore l'interprétation spécifique à l'opéra à la fin du 19e siècle et mille autres sujets. Et côté artiste, on a un immense plaisir à retrouver des fidèles invités du Palazzetto, comme le ténor Cyril Dubois, la soprano Véronique Jans, les sœurs Milstein, piano et violon, des quatuors à cordes merveilleux comme les Tchalik ou les Ardeaux, et bien d'autres. Et puis, quant aux publications discographiques du Palazzetto, qui sont toujours accompagnées de livrets, je devrais plutôt dire de livres, ce sont de véritables livres, tout à fait passionnant et en plus très beau à mettre dans nos bibliothèques, leur collection ne cesse de s'enrichir et sous sa couverture d'un verre très printanier, nous avons « Oh mon bel inconnu », une des dernières livraisons, « Oh mon bel inconnu » de Reynaldo Hahn, un compositeur cher au Palazzetto, et il a bien raison. Et sous la direction de Samuel Jean, un très joli plateau vocal, et nous allons d'ailleurs entendre trois voix féminines dans le trio « Oh mon bel inconnu ».
Ravi son trio. Délicieux trio, « Oh mon bel inconnu » tiré de la comédie musicale, c'est comme ça qu'elle s'intitule « Oh mon bel inconnu » de Reynaldo Hahn, chanté ici par Véronique Jans, Olivia Doré et Éléonore Pancrazi avec l'Orchestre National Avignon Provence, dirigé par Samuel Jean, un extrait de cette nouvelle magnifique publication du Palazzetto Bruzzane, « Oh mon bel inconnu » de Reynaldo Hahn, somptueux livre-disque. Merci beaucoup Emmanuel pour pour cette petite escapade vénitienne.
Merci Laure.
Et on se dit à la semaine prochaine. Quant à nous, nous serons demain en compagnie de Guillaume Lamas, le directeur de l'Orchestre National des Pays de la Loire, orchestre dont nous diffuserons samedi un concert enregistré à huis clos. Merci beaucoup à Robin Rieuvernet pour la réalisation de cette émission. Très belle soirée à tous, qui se prolonge en musique avec Francis Drezel.